d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, le joli mois de mai et les élections européennes. Dans 3 semaines maintenant, on élira les eurodéputés et ce sera notamment un test de la puissance des populistes à travers l'Union. Ils pourraient se renforcer au Parlement. Ils sont déjà bien présents au sein du Conseil qui réunit les gouvernements des États membres. D'après les derniers sondages, les populistes pourraient rafler la mise en Italie notamment. En Italie même, une partie de la population se dresse depuis des mois contre la politique du gouvernement de coalition entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini. Le vent du refus qui se fait sentir particulièrement à Milan, la capitale économique dans le nord du pays. On se souvient de la grande manifestation antiraciste qui a réuni 200 000 personnes début mars. Déjà en juin dernier, lorsque Matteo Salvini, tout juste nommé ministre de l'Intérieur, a annoncé la fermeture des ports aux migrants, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour protester sur la place de la Scala. Et il y a quelques jours, pour célébrer la libération, il était encore question de résister au gouvernement actuel. Le reportage de Franceline Verretti.
C'est un 25 avril comme un autre. Pour célébrer la fin du totalitarisme, les associations d'anciens combattants, les partigiani, se retrouvent devant la cathédrale. Malgré la pluie, la place est pleine. Andrea est rassuré.
C'est encore plus important aujourd'hui, vu ce qui se passe en Italie, vu les attaques contre la démocratie jour après jour, y compris de la part du gouvernement. Bon, de là à comparer la situation d'aujourd'hui avec celle du fascisme à proprement parler, mais il y a des signes d'un changement, d'un retour à certaines logiques, et c'est ce que l'on doit combattre par tous les moyens. On ne peut pas comparer, mais on peut quand même faire un parallèle.
Dans les discours officiels, c'est un leitmotiv. Il faut entrer en résistance comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains trouvent l'analogie trop facile, mais comme Andrea, tous voient en Milan le symbole de l'opposition hier et aujourd'hui.
Milan est décidément une ville importante. Elle l'a été par le passé, elle l'est maintenant et le sera encore, ne serait-ce que parce que c'est la deuxième ville d'Italie.
C'est même plus que cela. La capitale de l'économie, des banques, de la mode et du design est aussi celle des innovations politiques. C'est là que naît le fascisme de Benito Mussolini. Silvio Berlusconi y fait fortune avant de se lancer dans la vie publique. Plus récemment, un certain Matteo Salvini fait parler de lui au conseil municipal. Milan, c'est donc un symbole que tous les partis espèrent reprendre au centre-gauche. Lia Quaterpelle est députée milanaise, membre du Parti démocrate, comme le maire actuel. Elle ne voit pas la Lega se faire élire ici.
Milan est structurellement à l'opposition d'un gouvernement qui parle de fermeture, qui est contre l'Europe, contre le développement et contre la solidarité. Historiquement, c'est une ville qui a été dominée par les étrangers, les Français, les Espagnols, la dynastie des Habsbourg. Ces influences étrangères sont restées dans l'ADN de la ville.
Pourtant, la Lega rêve de gagner les élections municipales en 2021. Il y a 2 semaines, elle organisait une réunion pour mobiliser les troupes, dans une ambiance optimiste. Les sondages lui donnent ici, comme dans le reste de l'Italie, plus de 30% des voix. Alessandro Morelli est député et conseiller municipal Lega. Il est très confiant.
Aujourd'hui, Milan reste le dernier bastion d'une époque révolue. Donc évidemment, nous voulons ici promouvoir et proposer notre nouveau modèle.
Il faut selon lui distinguer le centre, plutôt à gauche et très riche, et les périphéries. Pauvres, oubliés et victimes d'une immigration sans contrôle.
Beaucoup, au centre-gauche ou à gauche, nous expliquent à quel point c'est beau d'avoir des classes multiculturelles. Mais si tu vas à rue Paravia, en périphérie ouest, tu as certaines classes avec 70-75% d'étrangers, ce qui signifie évidemment qu'on ne les intègre pas. Si ce modèle multiculturel est tellement beau, cette classe avec 100 langues, alors pourquoi les parents ne se battent-ils pas pour inscrire leurs enfants dans ces classes? Peut-être parce qu'ils arrivent à les envoyer à l'école américaine, à l'école suisse. Alors là, bien sûr, c'est facile de faire du multiculturalisme et du multilinguisme.
1 500 000 habitants environ habitent cette agglomération milanaise. Une ville morcelée avec ses quartiers délabrés, des étrangers arrivés plus ou moins récemment, car son rayonnement économique attire. Mais les premiers immigrés de la ville, c'étaient les Italiens du Sud, que les arrogants du Nord appelaient Peroni. cutéreux. Cette main-d'œuvre bon marché a bénéficié à la croissance. Lia Quaterpelle le rappelle, les Milanais sont des entrepreneurs avant tout. Ils n'aiment pas les grands discours.
Les Milanais veulent la politique la moins intrusive possible. Ils veulent une politique qui fasse son travail, qui fasse fonctionner la ville correctement, qui la fasse aller de l'avant. Ils ne veulent pas de tracasseries administratives ni de grands discours. Ils veulent voir des choses concrètes. Faire de Milan le symbole d'une bataille, c'est peut-être intéressant au niveau national, mais pas pour les Milanais.
La députée l'avoue, la Lega pourrait réaliser de bons scores en périphérie. Mais elle ajoute que les habitants du centre sont plus nombreux à voter. Voilà un bon exemple de pragmatisme.
We'll be proud to say, I am an European.
Niklas Münch est un peu un symbole de la construction européenne et de l'amitié franco-allemande. Il a 23 ans, il est allemand, il étudie en France et il est jeune ambassadeur de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Bref, l'Europe, les élections, ça l'intéresse, même s'il confie à Accent d'Europe qu'il est un peu inquiet à quelques semaines du scrutin.
Pourquoi je suis inquiet? Notamment parce qu'il y a déjà les infox. Donc évidemment, l'Europe va pas bien, l'Europe fait pas toujours des bons choix. Enfin, moi, je me considérais plutôt comme europhile, mais aussi eurocritique. Donc, évidemment, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans la Méditerranée, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe avec les GAFA, on n'est pas d'accord avec le déséquilibre entre les États. Par exemple, justement, dans mon cas, je peux dire, l'Allemagne joue un rôle très fort en Europe, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Donc, je pense que c'est plutôt mal, parce que pourquoi on ne taxe pas les GAFA? Justement, cette histoire avec les propos de Macron concernant l'Europe, le renforcement de l'Union européenne, Merkel et AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, la nouvelle chef de la CDU, ils ont quasiment rien dit. Évidemment, il y avait cette lettre de réponse, mais rien dedans. C'est très léger, très faible.
Et selon vous, quelle personnalité incarne le mieux l'Europe aujourd'hui?
Ouais, bah déjà, je trouve ça assez symbolique que la première personne qui me vient dans l'esprit, c'est Jean-Claude Juncker. Bon, comme ça. C'est un technocrate, c'est un bureaucrate, c'est un eurocrate, comme on dit.
Niklas Münch, ambassadeur de l'Office franco-allemand de la jeunesse. Retour à Londonderry le 19 avril dernier, 21 ans jour pour jour après les accords de paix du vendredi saint qui ont mis fin à la violence entre républicains et unionistes en Irlande du Nord. La jeune journaliste Lyra McKee meurt en couvrant une émeute survenue lors d'une opération de contrôle de police. Une balle tirée par un activiste de la nouvelle armée républicaine. Ce drame, qui survient dans un contexte de regain de tension et sur fond de Brexit, a été unanimement condamné, Juliette Gerbrand.
Lumineuse, intelligente, bienveillante, bourrée de talent et toujours éprise de justice. Voilà comment ses amis décrivent Lyra McKee. Le visage rond, les cheveux courts, la journaliste, également militante pour les droits LGBT, avait 8 ans à la signature des accords de paix du vendredi saint.
Elle se décrivait comme une enfant du cessez-le-feu et disait souvent, elle me l'avait redit il y a 3 semaines, on nous a tout promis sans rien nous donner. Elle se battait avec passion pour que sa génération ait un avenir.
Catherine Johnston, auteure et journaliste freelance de Belfast, une amie de Lyra McKee. Lyra, dont la première enquête journalistique est un succès, elle n'a alors que 16 ans.
Elle a écrit sur le taux de suicide élevé chez les jeunes garçons du nord de Belfast. Le suicide chez les jeunes, c'est malheureusement l'un des héritages du conflit. Et Lyra l'a traité de façon très émouvante et avec beaucoup de maturité.
Son travail lui vaut d'être élue journaliste de l'année par Sky News. Sur Twitter, son dernier message est une photo des heures de Craigan. Une épaisse fumée s'échappe du quartier. Complètement dingue, écrit-elle, peu avant d'être mortellement blessée. Le drame survient dans un contexte de tension croissante. Anne Travers, dont la sœur a été assassinée par l'armée républicaine irlandaise en 1984, était une proche de Lyra McKee.
Je dois avouer que ces derniers mois, je redoutais qu'il arrive quelque chose comme ça. Ces gens sont des voyous et ils utilisent le Brexit pour relancer la violence. Ils sont liés à la criminalité organisée, à la drogue. Ils doivent être condamnés et rejetés par tout le monde.
Ces gens, ce sont les membres du groupuscule Nouvelle Armée Républicaine Irlandaise qui reconnaît mercredi sa responsabilité et présente ses excuses. L'indignation est unanime. La population, même dans les quartiers militants, condamne. Catherine Johnston.
Quelques jours plus tard, dans le quartier de Craigan, des femmes ont fait une marche de protestation jusqu'au siège de Dursey Road, un petit parti proche de la Nouvelle IRA. Et avec beaucoup de courage, elles ont laissé sur les murs, devant les militants, l'empreinte de leurs mains à la peinture rouge, en symbole du sang qu'ils ont sur les mains, et pour dire « nous ne voulons pas de ça ».
Éviter le retour de la violence et rétablir les institutions partagées, voilà l'urgence dans une Irlande du Nord sans gouvernement depuis 2 ans et où la perspective du retour de postes frontières avec le Brexit met de l'huile sur le feu. Anne Travers ne le souhaite pas le Brexit, mais la frontière ne l'effraye pas.
Bien sûr, je vis au sud et je travaille au nord. Si on rétablit des postes frontières, le trajet sera plus long. Mais on a déjà eu une frontière et il faut rappeler que les soldats n'étaient là que pour des raisons de sécurité, à cause du terrorisme de l'IRA. Le Brexit est un argument pour faire peur. Les politiciens qui l'utilisent ont des comptes à rendre et il est temps qu'ils apaisent la situation.
Et les discussions pour la formation d'un gouvernement vont reprendre, c'est officiel. Aux funérailles de Lyra Mackey, comme sur les lieux du drame, dirigeants politiques, unionistes et nationalistes se sont tenus côte à côte. Dans la cathédrale Sainte-Anne, à Belfast, le primat d'Irlande, Martin McGill, les a félicités. Mais a-t-il ajouté
« Why in God's name does it take the death of a 29-year-old woman with her whole life in front of her ?»
Pourquoi, au nom de Dieu, a-t-il fallu pour ça la mort d'une jeune femme de 29 ans qui avait toute la vie devant elle ?
Venez, chers visiteurs, entrez. Attention, les couloirs sont très étroits. Faut pas être trop gros.
Personne n'est gros.
La lutte contre l'obésité en France. Dans le nord du pays, dans les Hauts-de-France, une personne sur 5 est obèse, une sur 5 en surpoids. La Picardie voisine est touchée également par ce que certains médecins appellent une épidémie. Et il y a peu d'associations hors structure médicale dans la région pour aider les malades. C'est pour ça qu'il y a quelques années, à côté d'Amiens, s'est créée l'association Les Petits Pois qui propose tout un tas d'activités, Lise Verbeck.
Okay. Du coup, on va reprendre les choses articulaires comme les études. Après, on fera un peu cardiovasculaire et puis après, on termine la séance avec les petits exercices et étirements, d'accord ?
Il y a un dénominateur commun aux 6 femmes venues suivre ce soir-là le cours de gym douce dans la petite salle de l'association, leur sourire qui illumine leur visage.
Et on va lâcher tout doucement, on va passer au bassin. Alors pour le bassin, 2 solutions. Si vous avez des petites douleurs dans le bas du dos, on va faire...
Jérôme est le prof d'activité physique adaptée.
Je me souviens de personnes qui avaient du mal tout simplement pour se lever. Et aujourd'hui, en début de séance, elles viennent en marchant déjà, elles n'ont pas besoin forcément d'aide pour venir. Et pendant le cours, elles se lèvent et puis elles sont contentes, ça met le sourire.
Et c'est cela que la plupart des adhérents au Petit Pois viennent chercher, passer un bon moment, ensemble, tout en gagnant jour après jour en autonomie et en confiance en soi, apprendre à relever la tête et affronter le regard des autres.
Je suis arrivée après une hospitalisation, une très forte dépression et... Je suis venue, j'étais pas très bien.
Quand Adeline a poussé la porte de l'association, elle y a trouvé une bouffée d'oxygène.
J'avais peur, j'étais stressée, j'avais peur des autres en fait. J'étais stressée, angoissée. Et donc ça me faisait souffrir. J'avais besoin d'aide, de lien social, j'avais plus de lien social, j'avais plus rien en fait. Et petit à petit, l'association m'a réappris tout ça. Au départ, dans l'association, je m'excusais tout le temps. Je disais tout le temps que j'étais désolée. Et en fait, avec l'aide des filles, on a instauré une petite tirelire. Et à chaque fois que je mettais 1 euro, à chaque fois que je disais que j'étais désolée. Et au fur et à mesure du temps, je le dis moi.
Adeline, comme les 140 autres adhérents des Petits Pois qui souffrent d'obésité, de maladies chroniques comme le diabète ou de maladies respiratoires, participe à différents ateliers, marches nordiques, aquagym, mais aussi des cours de cuisine et des ateliers socio-esthétiques.
Ça va pour tout le monde pour l'instant ?
On n'a pas choisi d'être obèse. On se dit pas à la naissance, tiens, si j'étais obèse, ça serait chouette. Je pense pas. Je pense qu'il y a personne qui fait ce choix-là.
Lydie est la présidente des Petits Pois.
En fait, quand on parle de grossophobie, c'est parce que le gros, il est vu comme quelqu'un qui est dans son canapé avec le paquet de chips dans une main, le hamburger dans l'autre. C'est pas du tout ça. Par rapport à ça, oui, la grossophobie, c'est compliqué parce que on l'a subi au quotidien dès l'enfance, hein, à l'école. On l'a subi quand on cherche du travail. On l'a subi par les médecins, notamment. Alors pour les femmes. femmes, la violence gynécologique, hein, c'est voilà, des choses qui nous rappellent tout le temps qu'on est gros, qui nous culpabilisent. Par exemple, quand on veut voyager, si on est gros, en fait, on paye deux places. Alors oui, j'ai du poids en plus, mais je vois pas pourquoi. En plus, je paye un excédent de bagage. Donc en fait, je suis un bagage, je suis un objet. Enfin, ouais, je suis une partie de moi n'est rien.
L'association fourmille de projets et s'aperçoit qu'il y a beaucoup de demandes. L'idée est notamment d'ouvrir des antennes un peu partout dans le département et au-delà. Et c'est important pour Marie-Pierre d'être au plus proche des patients, qu'ils aient une structure autre que l'hôpital pour les aider.
Pour qu'ils puissent petit à petit reprendre un parcours hors maladie, reprendre une vie normale. C'est tant qu'on reste sur l'hôpital ou avoir des médecins, du personnel paramédical, on est toujours vraiment malade. Dès qu'on sort un peu, on se sent plus libre. C'est ça, c'est retrouver une liberté même si on reste malade.
Lydie veut également faire de la prévention scolaire.
On a des enfants qu'on accueille aujourd'hui qui sont en surpoids en obésité et qui sont scolarisés. Et systématiquement, ces enfants-là déjà sont dispensés de sport parce que en fait, ils ne peuvent pas pratiquer l'activité physique telle qu'elle est proposée à l'école. Et en plus, ils subissent en fait les moqueries, etc. des camarades. Et donc, ces enfants qu'on rencontre sont pour beaucoup harcelés à l'école, voire frappés, voire terrorisés par d'autres enfants. On aimerait nous pouvoir justement aller à la rencontre des élèves de leur classe, en fait, pour expliquer ce qu'est la grossophobie, expliquer aussi un peu ce qu'est le harcèlement, celui qui le subit, celui qui le fait subir et ceux qui se taisent.
L'association prévoit aussi de jouer une pièce de théâtre d'ici la fin de l'année pour sensibiliser le public.
Toutes portes ouvertes en plein courant d'air.
Elle était fantasque, elle était attachante, talentueuse. Agnès Varda, la seule femme réalisatrice de la nouvelle vague, s'est éteinte le 29 mars dernier. Ce n'était pas seulement une cinéaste, elle était aussi plasticienne, photographe. À Moscou, le musée d'art multimédia présente jusqu'au 23 mai prochain son œuvre photographique Étienne Bouche.
Sur l'affiche de l'exposition, Catherine Deneuve a la bouche entrouverte et le regard pensif. La photo a été prise en 1969 à Beverly Hills. L'actrice est déjà une star. L'objectif d'Agnès Varda est immortaliser des légendes. Jeanne Moreau, Anouk Aimée, Luchino Visconti, mais aussi le réalisateur Jacques Demy dont elle a partagé la vie. Qu'elle fut la seule femme réalisatrice de la nouvelle vague, Agnès Varda s'en moquait pas mal. Sa trajectoire artistique fut tout à fait singulière. Rosalie Varda, sa fille, est venue à Moscou présenter l'exposition.
Agnès Varda disait depuis très longtemps qu'elle avait trois vies, mais que les trois vies étaient mélangées. Pourquoi trois vies ? Parce qu'elle a commencé comme photographe, elle a continué comme cinéaste. Et dans les 15 dernières années de sa vie, elle a beaucoup aimé mêler justement la photographie, le cinéma et puis des installations vidéo. Voilà, ce qui est formidable, c'est de pouvoir suivre un chemin de vie qui vous amène à faire différentes choses. C'est la première fois qu'à Moscou ou en Russie, on va pouvoir voir son travail de photographe. Parce que ses films sont relativement connus en Russie, mais son travail de photographe, pas du tout.
Le visiteur peut notamment découvrir des photos de sa première exposition, photos tirées dans son laboratoire de la rue Daguerre en 1954. À cette époque, elle est aussi photographe officielle du Festival d'Avignon. D'autres séries sont consacrées à ses voyages. Agnès Varda saisit la Chine rurale, le Cuba communiste des années 60. À la fin de cette décennie, elle trouve l'inspiration à Los Angeles avec les Black Panthers et la génération Peace and Love. Des photos en noir et blanc qui captent admirablement l'esprit du temps.
Accent d'Europe, c'est terminé. À la réalisation, Jérémy Besset. Vous nous retrouvez sur notre podcast Accent d'Europe sur le site RFI.fr, sur les réseaux sociaux et ici, demain, à la même heure.